Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sergio Coronado, ancien député écologiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Sergio Coronado, pour commencer, bienvenue à nos auditeurs qui nous écoutent depuis aujourd'hui à Poitiers. Première question, comment analysez-vous les résultats des élections législatives ? Pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron, un bloc de gauche important et une présence forte de l'extrême droite.
C'est des résultats un peu inattendus en fait, puisque c'est rare qu'un président réélu n'ait pas de majorité en fait sous la Ve République. Je rappelle quand même que François Mitterrand en 88 avait dû, et notamment le gouvernement Rocard, construire des majorités parfois sur des votes importants et qu'il avait fallu aller chercher ces voix qui permettaient de construire une majorité. Donc c'est d'abord ça le résultat, c'est qu'Emmanuel Macron, après 5 ans, se retrouve sans majorité à l'Assemblée nationale. C'est une majorité relative, donc ce n'est pas totalement un échec et une défaite retentissante. Hein. Il arrive quand même à être dans les bancs de l'Assemblée le premier groupe représenté, les forces qui se réclament de la Macronie. La gauche est debout et personne ne s'y attendait avant les élections présidentielles en fait. Et on le doit en grande partie à l'initiative prise par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que pendant l'année qui vient de s'écouler, et je dirais même davantage, pendant les quelques années qui viennent de s'écouler, on a le sentiment que ces gauches socialistes, écologistes, communistes, insoumises étaient incapables de se parler. En tout cas, moi j'ai le souvenir d'avoir, avec d'autres, évidemment pas tout seul, prêché un peu dans le désert à une époque en appelant à se parler, à se rassembler. Au lendemain du premier tour, un peu à l'arrache, comme on dit familièrement, ces gauches ont été capables de construire à la fois un accord électoral et un socle programmatique minimal qui a permis, en fait, sans beaucoup d'implantation locale, d'ailleurs on le voit lorsqu'on analyse précisément la carte des résultats, bah, finalement de rester debout. Alors le résultat est loin de ce qui aurait pu être souhaité, rêvé et ce que certains attendaient d'ailleurs, puisque le nombre de députés de la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale est plutôt dans la fourchette basse en fait de ce qu'on pouvait attendre, malheureusement. Et puis surtout la grande nouveauté, malheureusement d'ailleurs, de ces élections, c'est l'arrivée massive. 89 députés du Rassemblement national. Pendant très longtemps, on a vécu dans le mythe réconfortant que le Rassemblement national, anciennement le Front national, ne pourrait jamais arriver au pouvoir sous la Ve République avec un scrutin majoritaire, puisque en duel, il perdait systématiquement. Ben là, on a constaté d'abord une très forte présence au second tour, et on a constaté également que les duels, ils ne les perdaient pas toujours, et qu'ils avaient même aujourd'hui tendance plutôt à les gagner. Donc c'est ça, à mon sens, la très grande nouveauté, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui regardent avec attention et peut-être moins de passion, comme c'est aujourd'hui mon cas, ces résultats, la crainte qu'un jour le Rassemblement national gouverne ce pays n'est pas totalement fantasmée.
Et Sergio Coronado, les Français semblent approuver le fait que le président Macron n'ait pas tous les pouvoirs. Cela peut permettre à l'Assemblée nationale de jouer un plus grand rôle que sous le quinquennat précédent ?
C'est une question difficile. D'abord parce que là, en France, en fait, les institutions de la Ve République et le fonctionnement parlementaire ne sont pas construits comme dans d'autres démocraties parlementaires européennes, et notamment comme la démocratie voisine allemande, à laquelle on fait souvent référence sur les contrats de mandature, sur la capacité des uns et des autres à s'entendre, à pouvoir mener des politiques communes, même quand on est sur l'échiquier politique très opposé. En fait, à partir du moment où vous avez un exécutif extrêmement fort et un Parlement relativement vassalisé sous la Ve République et un scrutin majoritaire qui n'incite pas en fait au dialogue, parce que ce sont des affrontements de second tour, moi je vois difficilement soudainement se mettre en place une sorte de fonctionnement à l'allemande qui permettrait que sur des grands sujets on puisse avancer. D'abord parce que la culture politique d'Emmanuel Macron me fait douter de cette possibilité-là, de cette hypothèse-là en fait. À chaque fois que je l'entends, et je fais très attention pour ne pas caricaturer les propos, du président de la République. Ce que j'entends, c'est plutôt autour de mon projet. Il faudra se déterminer. D'abord, son projet, j'ai, comme beaucoup de Français, du mal à l'identifier, puisque un certain nombre de Français, un certain nombre très important d'ailleurs, ont voté pour écarter du pouvoir Marine Le Pen. Et même si au premier tour, il fait un score tout à fait honorable, je n'ai pas le sentiment en fait que une majorité dans ce pays ait voté pour la retraite à 65 ans, pour la casse de l'hôpital public qui a commencé sous son quinquennat, enfin qui s'est renforcée, ou pour d'autres mesures qu'il a pu prendre, comme la réforme de l'assurance chômage. Donc j'ai vraiment des doutes en fait à ce que ce président puisse impulser dans le respect du Parlement un fonctionnement beaucoup plus basé sur le dialogue et le respect des oppositions. J'ai encore entendu en fait Emmanuel Macron qualifier l'AFI de mouvement anti-républicain. Donc au sein de la nouvelle Union populaire, vous qualifiez le principal parti, en fait, le principal groupe d'opposition au sein de ce conglomérat d'opposition de forces anti-républicaines, ça me paraît compliqué en fait ensuite de dire on va tendre la main et projet par projet on va dégager des majorités. Et puis il faut pour cela en fait avoir un certain savoir-faire dans la construction du dialogue, de l'entente, dans le respect au sein d'une assemblée. Et je ne suis pas sûr que les macronistes, qui n'ont pas brillé en fait par une connaissance et du fonctionnement parlementaire et par leur capacité finalement à se détacher, à s'affranchir de la tutelle du président de la République, et la capacité, l'expérience, le savoir-faire pour que à la tête de l'Assemblée, comme ce sera le cas, et des principales commissions, ils aient cette capacité-là à faire fonctionner une démocratie parlementaire de plein droit en fait, libérée de la tutelle présidentielle. Ça me paraît compliqué en fait. Tout le monde voudrait y croire, mais à un moment donné, il faut aussi voir que les structures, elles sont structurantes dans le comportement politique et que la France n'est pas habituée à ce type de fonctionnement et que par ailleurs, les principales personnalités aujourd'hui politiques n'y sont pas non plus très favorables en fait. Je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron, au-delà de la politique de communication qui vise à mettre les oppositions contre le mur en prenant les Français à témoin, en disant je fais preuve de bonne volonté, vous verrez, ce sont les oppositions qui ne souhaitent pas se rassembler au nom de l'intérêt de la France. Et puis les principales figures de l'opposition qui n'ont pas intérêt, parce qu'elles ont fait campagne en fait contre la candidature d'Emmanuel Macron et contre les esquisses de ce qu'on pourrait appeler un programme gouvernemental. Voilà, ça me paraît assez inenvisageable. Enfin, on peut être surpris, hein, la période politique elle est aux surprises, le fonctionnement politique est surprenant désormais, les partis qui semblaient dominer la vie politique, les partis de gouvernement, on l'a vu, ont presque disparu en une élection dans la compétition pour la présidence de la République. Je veux parler des Républicains et du Parti Socialiste, et désormais le jeu politique se construit en trois grands blocs, un bloc d'extrême droite populiste, un bloc de gauche écologiste, et puis un bloc central que certains appellent le bloc bourgeois, mais qui regroupe en fait, même si ils s'affrontent encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale et je ne suis pas sûr qu'ils trouvent un terrain d'entente, mais une droite et le parti du président de la République qui grosso modo ont à peu près les mêmes intérêts, en tout cas les mêmes projets politiques en fait.
Sergio Coronado, les écologistes ont fait leur grand retour à l'Assemblée après 5 ans d'absence. Vous avez été député d'Europe Écologie Les Verts. Quel doit être le rôle des écologistes au moment où la question climatique est perçue par les Français comme un enjeu majeur?
D'abord, c'est une bonne nouvelle que les écologistes retrouvent le chemin de l'Assemblée nationale. En fait, c'est compliqué pour une force politique qui vise à conquérir le pouvoir de rester trop longtemps absente du Parlement. C'est une perte d'expérience, c'est une tribune en moins, c'est aussi à lui on acquiert de l'expertise, de la compétence en fait, et donc c'est une très bonne chose que les écologistes fassent leur retour. Ils le font dans des conditions particulières, parce que nous étions entre 2012 et 2017 dans la majorité, nous sommes aujourd'hui dans l'opposition, avec un Emmanuel Macron qui n'a pas brillé lors du précédent quinquennat. Contrairement aux premières attentes, peut-être, d'une partie des écologistes, j'en faisais pas vraiment partie, mais je reconnais qu'il y avait une forme d'attente à l'époque sur la protection de l'environnement et sur l'écologie. Je rappelle qu'il a été deux fois condamné pour inaction climatique, que ses décisions sur les néonies nicotinoïdes et le glyphosate ont fait date, et que contrairement à l'image d'un président jeune et moderne, finalement il s'est révélé relativement conservateur et même rétrograde sur les enjeux écologiques. Et on sait aujourd'hui que la France prend du retard sur les décisions nécessaires, sur la bifurcation indispensable pour faire face à la crise climatique. En fait, tout ça s'aggrave à une vitesse ahurissante, et le rythme des décisions politiques, quand elles ne sont pas contraires à cette nécessité-là, le rythme des décisions politiques est extrêmement lent, en fait. D'abord, les écologistes doivent porter avec force et conviction leurs propositions, mais quand vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas une force de proposition au Parlement, à moins que ça change. Hein. Peut-être que ce sera le cas, j'en doute. Et donc, d'abord, de faire entendre la voix de l'écologie politique, je pense que ce sera le cas, puisque je crois que sur ces questions-là, et notamment dans le cadre de l'accord politique passé avec le Parti socialiste, les communistes et les insoumis, la question environnementale n'est pas une question accessoire ou minoritaire ou marginale, elle est au cœur même des politiques publiques. Cette transformation de nos modes de vie, de production, de consommation, enfin, cette bifurcation absolument indispensable, et notamment sur le plan de l'énergie, est nécessaire, et je crois que toutes ces forces-là en ont conscience. Et donc aux écologistes de prendre la pleine mesure de cette nouvelle situation, en fait, qui change par rapport au passé récent.
Sergio Coronado, depuis ce week-end, il y a une forte émotion en France après la remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que ce recul pour les libertés des femmes est une menace aussi pour un pays comme la France ?
La stupéfaction a gagné le monde entier, en fait. Les répercussions ne sont pas qu'en France. Je regardais la presse latino-américaine. Les réactions sont mondiales, en fait, face à cette décision à la fois conservatrice, rétrograde, patriarcale, classiste et même un peu raciste, en fait, de la Cour suprême nord-américaine, qui revient sur une liberté fondamentale qui est celle, évidemment en priorité, celle des femmes, mais qui concerne l'ensemble du genre humain. Je pense que quand les femmes sont libres, les hommes le sont aussi, tout autant, en fait. Et c'est une décision particulièrement dangereuse parce qu'elle ouvre la brèche à des décisions sur d'autres domaines qui relèvent des libertés fondamentales, des droits acquis, et notamment pour les minorités. Les États-Unis ont cette force d'avoir, par leurs décisions, une influence sur le monde occidental depuis fort longtemps. Donc, je ne suis pas sûr qu'on vive la même situation qu'en France. Cela dit, en fait, l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, dont certains ont eu des déclarations tout aussi virulentes que les trumpistes ou les néo-conservateurs aux États-Unis ou les membres du Tea Party. Voilà, je pense qu'il faut être très vigilant sur ces questions-là. Il y a désormais visiblement un projet de dépôt de texte de modification de la Constitution pour réintégrer l'IVG. Ça me paraît une bonne chose. Les macronistes s'étaient opposés en 2018, je crois, à l'Assemblée nationale. Je pense que dans cette affaire, faut pas être boutiqué aux partisans. Oui, ils s'y étaient opposés. Oui, ils avaient été bêtes de s'y opposer. Aujourd'hui, je pense que la possibilité que l'ensemble des groupes, en tout cas de l'opposition et des groupes de la majorité gouvernementale, puissent voter un même texte qui permette d'inscrire ce droit-là, cette liberté fondamentale-là dans la Constitution, ça me paraît une bonne chose. En tout cas, ça me permettrait de me dire que peut-être le Parlement va fonctionner autrement.
Sergio Coronado, après avoir milité en Seine-Saint-Denis et été élu en Amérique du Sud pour les Français de l'étranger, vous vivez désormais à Marseille, on entend d'ailleurs les cigales derrière vous. Pourquoi Emmanuel Macron s'intéresse-t-il autant à la ville de Marseille? Quels sont les enjeux de la politique menée actuellement par le gouvernement à Marseille?
Il s'y intéresse parce que je pense qu'il a un attachement à cette ville, et je peux le comprendre, c'est une ville extrêmement attachante. C'est une ville qui subit un retard considérable dû à 30 ans de politique de droite extrêmement immobile, en fait, inerte et un peu irresponsable, pour ne pas dire totalement irresponsable. Retard sur les transports collectifs, une situation du logement et du logement insalubre. Peu de villes en France, si ce n'est la seule, en fait, connaissent. C'est une ville pauvre avec des inégalités extrêmement fortes. C'est une ville qui est confrontée, en fait, aux enjeux à la fois de réparation sur les écoles, une honte, pas simplement pour les enfants de Marseille, mais pour l'ensemble de la République, et la situation, comme je l'ai dit, de l'habitat indigne avec cette prise de conscience au moment de l'effondrement tragique rue d'Aubagne qui a fait plusieurs morts. Voilà, c'est un contexte un peu sombre, en fait, Et puis c'est une ville qui change, qui bouge, il y a de nouvelles arrivées, c'est une ville qui s'invente aussi avec des forces vives, des collectifs, des associations, des expérimentations sociales alternatives. C'est une ville qui vient d'être lauréate de la mission européenne pour les 100 villes décarbonées à l'horizon 2030, donc elle va bénéficier de fonds européens pour mener à bien la transition écologique. Et je pense que le choix fait par la Commission est assez audacieux, qu'on va regarder les villes françaises qui ont été choisies. Marseille est un peu à part, en fait, puisqu'on a choisi des villes comme Paris, Grenoble, enfin, des villes très avancées, en fait, dans l'aménagement urbain, dans les transports collectifs, dans les déplacements doux, la transformation de l'appareil municipal, les alternatives énergétiques, en fait. Et je crois que Marseille a ce défi-là à relever. En fait, celui de la réparation, mais également celui de l'invention de la ville de demain. Et donc Emmanuel Macron s'intéresse à Marseille. Et il s'y intéresse peut-être aussi pour mener à bien des expérimentations qui, pour l'heure, à mon sens, n'ont pas ni l'aval de la majorité municipale, ni du corps enseignant. Rappelez-vous, il a souvent parlé, et son ancien ministre de l'Éducation le faisait régulièrement, sur une expérimentation dans les écoles marseillaises. En fait, voilà. C'est un intérêt que moi je trouve normal, un président de la République qui prend conscience en fait du retard de cette ville, dû notamment à l'absence de soutien de l'État, contrairement à d'autres villes et notamment à la capitale. Et je crois qu'en termes de réparation, c'est aussi comme ça qu'il faut fonctionner, quand l'État a failli ou l'État a fait défaut. Il est normal en fait que l'État revienne un peu au-devant de la scène et se tienne aux côtés des villes qui en ont besoin en fait. Et Marseille en a besoin, c'est une évidence. Et donc il faut trouver à la fois les conditions d'un dialogue honnête et respectueux en fait entre la ville et l'État, mais également une forme de gouvernance du territoire qui ne mette pas Marseille de côté. Vous savez que dans les difficultés que la ville rencontre, il y a la question des attributions entre la métropole, la ville, la métropole ex-Marseille-Provence en fait est un levier et décisionnaire sur une série de questions qui sont extrêmement importante pour Marseille, les déchets, les transports. Et sur ces questions-là, il faudra trouver en fait des moyens d'avancer ensemble, puisque pour l'instant, c'est une difficulté pour mener à bien des politiques au bénéfice des Marseillais et de l'intérêt général.
Merci Sergio Coronado. Je rappelle que vous êtes ancien député écologiste. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.